Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour Culture Média. Au menu, vous le savez, médias et culture au sens large. Il y aura le journal des médias de Cyril Lacarrière, le journal de la culture d'Hélène Manarino, des conseils séries et musique en groupe culte et une série culte. Nous sommes ensemble pour une heure et demie en direct pour évidemment podcaster l'émission ou la partie qui vous manque ou que vous voulez réécouter sur europe1.fr. Notre info média du jour, on ne dirait pas comme ça, mais Miss France va fêter ses 100 ans. Oui, la cérémonie Miss France 2021 aura bien lieu au mois de décembre. En attendant, les candidatures se font en ce moment par vidéo. Mais dans quelles conditions et suivant quels critères ? Réponse avec Sylvie Tellier, la directrice des Miss France. Nos invités ensuite, Stéphane Bern, une présente ce soir, un Laissez-vous guider consacré au Paris d'Haussmann sur France 2 avec des images époustouflantes. Il va également nous raconter son confinement qui l'a un peu secoué. Enfin, le comédien Ariel Mallet pour Meurtre en Corrèze, aucun rapport avec François Hollande ni avec Bernadette. Et vous verrez qu'il a une façon bien à lui de vivre en couple le confinement. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Cyril Lacarrière.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à toutes, bonjour à tous.
C'est le moment de votre journal des médias. Cyril, qu'avez-vous au menu ce matin ?
Ce matin, nous parlons des comptes de TF1 qui virent dans le rouge, des propositions du CSA pour remettre, je cite, du carburant dans le moteur, de France 4 qui garde sa blouse de prof à temps partiel, d'une première dame dans un palais confiné et de Snapchat qui lance une chaîne dédiée au coronavirus.
Mais comme chaque jour, on débute par les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télévision ?
Toujours personne pour détrôner TF1. Sa série The Resident flirte avec les 4,5 millions de téléspectateurs. Pour l'anecdote, TF1 remporte le match des prime time tous les soirs depuis le 12 avril. Derrière, M6 est toujours solide avec Top Chef. Près de 3,7 millions de téléspectateurs ont regardé un nouveau numéro du concours de cuisine. Et France 2 prend la dernière marche du podium avec sa série Réunion, suivie par plus de 3,1 millions Français. À noter également le nouveau bon score de la programmation ciné d'Arte. Le film de Bertrand Tavernier avec Marie Gillin Lapa a réuni 1,2 million téléspectateurs. Une programmation loin de l'esprit feel good qui préside en ce moment. Ouais. Et ça marche.
Culture Média.
Cyril, feel bad maintenant. On commence maintenant ce journal des médias avec encore des chiffres. Après M6 dont vous nous parliez hier, TF1 a publié hier ses résultats financiers et là encore, les premiers effets de la crise se font sentir.
Et comme pour M6, le groupe TF1 voit ses revenus publicitaires reculer de 9,7% au premier trimestre de l'année. Un recul assez net, mais là encore, qui ne concerne que le tout début du confinement, les comptes s'arrêtant en effet au 31 mars. Le plus dur est donc à venir pour TF1 comme pour tout le secteur. Gilles Pélisson, le patron de TF1, avait estimé que le chiffre d'affaires de son groupe devrait baisser de 50% pour le seul mois d'avril.
Et c'est dans ce contexte de crise généralisée que le président du CSA, Roch-Olivier Maistre, livre ses pistes pour relancer le secteur dans un entretien au journal L'Opinion.
Redonner de l'oxygène et remettre du carburant dans le système, voilà en une phrase les intentions du président de l'autorité de régulation qui parle d'un séisme pour l'audiovisuel. Parmi les propositions de Roch-Olivier Maistre, la mise en application dès que possible d'une série de décrets qui doivent permettre aux chaînes de faire par exemple de la publicité pour des films de cinéma, d'expérimenter la publicité segmentée ou de supprimer les jours interdits à la télé, une bien ancienne règle qui empêche les chaînes de programmer des films certains soirs, par exemple le samedi. Autre élément soutenu par le président du CSA, le crédit d'impôt pour soutenir les investissements des annonceurs dans les médias audiovisuels, à condition, précise-t-il, que ce dispositif soit encadré dans la forme et dans le temps.
Et sur un autre sujet dont on parle beaucoup en ce moment, Cyril, Roch-Olivier Maistre donne également son avis sur l'avenir de France 4.
Un terrain sur lequel le président du CSA s'aventure plus prudemment. Il rappelle que c'est un arbitrage qui appartient au gouvernement, mais tout de même, le président du CSA vante l'offre éducative mise en place par France 4 depuis la période de confinement. Et je le cite, conserver une telle offre peut avoir du sens.
Oui, parce que je rappelle, France 4 devait disparaître le 9 août et finalement, à cause du confinement, peut-être que non. Justement, au sujet de France 4, l'école est loin d'être finie.
L'école à la maison, ça va même continuer jusqu'au 3 juillet. Les cours diffusés tous les jours sur la chaîne vont se poursuivre jusqu'à la date officielle des vacances scolaires. comme on ne sait pas encore exactement comment va se passer le déconfinement, France 4 a décidé de continuer d'accompagner les familles et les élèves de la primaire au lycée. Selon la chaîne, 2 400 000 téléspectateurs en moyenne des 4 à 14 ans regardent ces programmes spéciaux. Dans Le Parisien, on apprend également que la Maison Loumni, que présente Alex Good, va s'ouvrir à de nouvelles disciplines, le dessin, la musique, le sport et même oui, le hip-hop.
Non.
Alex Good va-t-il se muer en nouveau Sydney ?
Oh là là.
Voilà, c'est un clin d'œil à celles et ceux qui s'exerçaient au Smurf et au breakdance en regardant Sydney sur TF1 au milieu des années 80.
C'était votre cas ? Ça sent le vécu. Paris Match, tout à fait autre chose. Paris Match consacre sa une de demain à Brigitte Macron.
Les entretiens de la première dame avec la presse sont suffisamment rares pour qu'ils ne passent pas inaperçus. Cette semaine, Paris Match lui consacre 5 pages, une rencontre entre Brigitte Macron et notre confrère Bruno Jeudy, le chef du service politique de l'hebdomadaire, qui s'est rendu à l'Élysée vendredi dernier. Et c'est aux coulisses de cette interview que je me suis intéressé. J'ai demandé notamment à Bruno Jeudy à quoi ressemble le palais de l'Élysée vide.
Ce qui m'a frappé d'abord en allant voir Brigitte Macron, c'est de découvrir un palais d'Élysée vide. C'est 25 ans que je fais du journalisme politique, je suis allé très très souvent dans ce palais, c'est plutôt une ruche, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'huissiers, et là il n'y a vraiment personne. C'est vrai que le palais est vide, on est allé dans le bureau de Brigitte Macron, dans un salon de visioconférence, on a traversé le palais, et on a croisé pratiquement personne. Le confinement est vraiment strict pour la première dame, hein, qui n'a pas remis les pieds dehors depuis le 15 mars, date des élections municipales, elle était allée au Touquet ce jour-là, elle était allée aussi se promener le soir avec son chien, une visite assez critiquée. Et depuis, elle n'a pas mis les pieds dehors. Ses 4 collaborateurs sont en télétravail.
Et voilà donc Brigitte Macron, comme le reste des Français, confinée. Bruno Jeudy nous explique comment elle occupe ses journées.
Confinée à l'Élysée, en fait, Brigitte Macron s'est trouvé une cause, une activité à plein temps, un job, comme elle dit, c'est celui de la Fondation des Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France, hein, où elle s'est littéralement emparée de cette fondation. Elle a ramassé beaucoup d'argent et elle s'occupe de le dépenser, d'aider les soignants et les patients. Chaque soir, elle téléphone à ses enfants et ses petits-enfants, elle déjeune parfois avec son mari, un peu plus d'ailleurs que d'habitude, parce que finalement, elle le voit plus souvent. Elle déjeune aussi avec Alexis Kohler, parfois avec Philippe Grandjean, qui est le conseiller spécial du président, mais elle dit au fond qu'elle ne voit plus trop la différence entre la semaine et les week-ends. Et surtout, elle se demande comment la vie d'après va redémarrer, cette vie de première dame, hein, faite de protocoles, de visites, de voyages. Et en fait, elle a un peu abandonné toute cette vie. Alors, elle téléphone à quelques homologues, elle a eu Mélania Trump notamment au téléphone, mais... on sent bien que elle a trouvé au moment de ce confinement sa voix, qui est vraiment la fondation qu'elle est en train de transformer, qui devient l'objet principal de ses journées et une cause pour laquelle elle veut poursuivre au-delà de la période de confinement.
Les confidences de Brigitte Macron, c'est-à-dire cette semaine dans Paris Match.
Snapchat lance une nouvelle chaîne pour les utilisateurs, une chaîne dédiée à la crise sanitaire.
Coronavirus actualité, c'est le nom de cette nouvelle venue sur cet onglet Discover. Discover, c'est là où les médias partenaires de Snapchat publient leurs productions. On y trouve notamment Le Monde, Brut, BFM TV et Europe 1. Et justement, l'intérêt de cette nouvelle chaîne, c'est de mettre en valeur l'information fiable. Emmanuel Durand, le PDG de Snapchat France, nous explique son ambition.
L'objectif, c'est d'avoir un environnement qui soit le plus sécurisé possible, notamment compte tenu de la propension de certains réseaux à propager assez facilement des fausses informations. On l'a vu, cette crise, elle est particulièrement impactée hein, par les théories complotistes et les infox. Et donc, en fait, il nous a paru important de participer à l'effort commun, on va dire, en assurant à nos utilisateurs une information de qualité vérifiée et qui leur permette, en fait, de savoir un peu mieux ce qu'il en est, en fait, de la situation.
Snapchat, c'est une des applications préférées des jeunes à travers le monde et la France ne déroge pas à la règle. Alors forcément, on imagine que cela implique certaines responsabilités. On écoute la réponse du patron de Snapchat France.
Je pense que en tant qu'acteur qui a un impact sur la vie des gens dans leur quotidien le plus immédiat, et Snapchat est une application, c'est la première application utilisée par les 15-34 ans en France. On est la troisième application dans l'espace français. Et il y a effectivement cette prise en compte, on va dire, de la responsabilité que ça implique d'essayer d'avoir un impact positif sur la société. D'ailleurs, les sujets qui sont populaires et qui sont considérés comme importants par nos utilisateurs sont aussi profonds et ce sont à peu près les mêmes que ceux qui vont être traités aux 20h. Ce qui va dévier, c'est la manière dont ils vont être traités. Et donc, ce qu'offre Snapchat avec cette plateforme Discover à nos partenaires médias, c'est de comprendre en fait cette nouvelle grammaire, on va dire, de l'attention qui est induite par une consommation de contenu sur un appareil mobile principalement plutôt que devant un écran de télévision.
L'actualité du coronavirus, une nouvelle chaîne donc à découvrir sur Snapchat Discover. Et quant à vous, les grands qui nous écoutez ce matin, je ne vous ai pas oublié, je vous signale une émission spéciale ce soir TF1 LCI avec Olivier Véran. Le ministre de la Santé sera d'abord l'invité du 20h de Gilles Boulot, puis il migrera sur le plateau de LCI pour répondre aux questions de David Pujadas dans une émission spéciale 11 mai, mode d'emploi.
Merci beaucoup Cyril Lacarrière, on vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias. Culture Média qui continue dans un instant, l'infomédia du jour. Cette année, l'élection de Miss France va fêter ses 100 ans. Ce sera en décembre prochain, oui, car la cérémonie est bien maintenue, mais elle va se dérouler dans des conditions forcément inédites. Mode d'élection bousculé, candidature réalisée par vidéo. Tous les détails avec Sylvie Tellier, directrice générale de l'organisation Miss France, juste après une courte pause.
Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
On ne dirait pas comme ça, mais Miss France a 100 ans. L'élection de Miss France s'apprête à fêter un siècle d'existence cette année, oui. Anniversaire particulier dans un contexte particulier pour cause de coronavirus. Le mode d'élection est bousculé, mais la cérémonie 2021 aura bien lieu au mois de décembre. D'ici là, les candidatures se font en ce moment par vidéo. Dans quelles conditions et suivant quels critères pour répondre, nous recevons Sylvie Tellier. Bonjour Sylvie.
Bonjour Philippe.
Vous êtes directrice générale de l'organisation Miss France, vous êtes la patronne quoi. Question rituelle en ce moment, comment allez-vous et où vous trouvez-vous confinée ?
Eh bien, déjà tout le monde a un patron, hein. Je suis pas la grande patronne.
Vous êtes directrice générale,
moi je suis à Paris, ouais. Je suis confinée à Paris avec mon mari et mes trois enfants.
Ouais.
Voilà, donc depuis plus de 40 jours et puis on fait un petit peu comme tout le monde, on patiente. Mais c'est vrai que j'ai un peu hâte de reprendre une activité normale.
Ouais. On est très nombreux dans ce cas-là. Contrairement à ce qu'on a pu lire au début de la crise du coronavirus, le règne de Clémence Bottineau Miss France 2020 ne sera pas prolongé. Est-ce que c'était une simple rumeur comme il y en a beaucoup ou est-ce que cela a été envisagé un temps ?
Ah non, pas du tout, c'était le fruit d'une blague en fait. J'ai participé à une émission avec Jarry et qui me pose la question et qui me dit imagine si on est confiné jusqu'au mois de novembre, qu'est-ce qui va se passer? Et je lui avais répondu sur le ton de l'humour, eh bien en ce cas-là on gardera Clémence Bottineau en tant que Miss France.
Ouais.
Et de là en fait il y a eu des reprises comme quoi le règne de Clémence pourrait être maintenu et l'élection supprimée. Mais bien évidemment notre objectif est de faire en sorte que l'élection de Miss France ait lieu cette année, puisque avant le confinement les élections départementales avaient déjà commencé. Et le principe de Miss France, c'est qu'il y a une élection chaque année.
Ouais, Clémence Bottineau, Miss France 2020, donc elle vit un règne particulier. Vous l'avez dit, elle est confinée chez ses parents en Guadeloupe. Quels sont les événements auxquels elle devait assister qui ont été annulés pour cause de coronavirus ? Qu'est-ce qu'elle manque ? Qu'est-ce qu'elle a manqué ?
Qu'est-ce qu'elle a manqué ? Bah pas mal de choses. Déjà tous les événements sportifs qui ont eu lieu, qui ont été annulés, que ce soit Roland Garros, que ce soit le Festival de Cannes qui a été reporté. Bon, il y a beaucoup de choses qui sont reportées. Donc moi je la rassure en lui disant écoute, tu vas avoir une rentrée en septembre qui va être certainement très très dense.
Ouais.
Mais ne t'inquiète pas, voilà. Après il y a d'autres choses qui ont pas été qui peuvent pas être reportées. Je pense à des événements en mai comme toutes les actions autour de la fête des mères, parce que Miss France est souvent invitée dans des centres de vie, à participer à des inaugurations, des choses comme ça. Bon, bah ça, c'est purement et simplement annulé. Mais quelque part, une Miss France, sa popularité n'est pas mesurée en fonction des kilomètres qu'elle parcourt dans l'année. Donc, pas de souci pour Clémence. Elle est très active, ça l'a rendue très créative sur les réseaux sociaux et elle a vraiment hâte de reprendre son rôle ici en métropole.
Et on va parler tout à l'heure des réseaux sociaux avec vous. L'élection de Miss France 2020, donc, n'est pas annulée pour récompenser la Miss France 2021, je trouvais plus le mot. Elle aura bien lieu, mais elle va se faire sans doute dans des conditions inhabituelles. Qu'est-ce que vous avez prévu en décembre ? D'abord, est-ce que ce sera en direct ? Est-ce qu'il y aura du public ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ?
Alors, bon, on est évidemment très en attente de savoir comment la situation va évoluer. Hein. Là, on n'a pas beaucoup de visibilité, on n'a déjà pas de visibilité sur cet été. Alors, en avoir pour le mois de décembre, c'est très compliqué. Mais c'est vrai que l'élection de Miss France, traditionnellement, est toujours en direct. Ça serait très étonnant de faire une élection qui n'est pas en direct, puisque le principe même de l'élection est de voter pour une candidate et d'attendre le résultat. Ça sera une élection particulière. Ça devait l'être, puisque c'est le centenaire, mais on ne l'avait pas imaginé comme ça. Je pense que le public comprendra hein, s'il y a des ajustements dans cette élection, puisque c'est une année, une situation évidemment inédite. Mmh. Aujourd'hui, ce qui a changé, c'est que toutes nos élections départementales de ce premier trimestre ont été soit reportées cet été ou à partir du mois de septembre, ou tout simplement annulées, puisque les élections régionales, généralement, commencent cet été et à partir de septembre-octobre. Donc on s'est dit qu'on allait proposer aux jeunes femmes de candidater en ligne, c'est-à-dire de nous envoyer une vidéo de présentation. Alors, une vidéo où elles présentent leur motivation, une vidéo où elles exposent un savoir-faire, un talent, une passion. On a fait un petit tuto avec Clémence Bottineau et les candidates nous envoient comme ça au fur et à mesure leurs vidéos qu'on redistribue, nous, à nos délégués dans les départements et les régions. Et une fois que le confinement sera terminé, elles seront reçues de visu par un grand casting, une grande présélection pour déterminer quelles seront les finalistes des élections régionales.
Justement, alors donc les prétendantes à la couronne de Miss France doivent envoyer 3 vidéos, une de présentation, nom, âge, profession, une dans lesquelles doivent défiler en tenue de ville et une troisième, candidature mode d'emploi avec justement Clémence Bottineau, Miss France 2020.
La troisième étape est celle que je trouve véritablement la plus passionnante parce que c'est le défi talent. Nous sommes une génération 2.0 avec des logiciels, du matériel, donc c'est l'occasion de nous montrer votre talent de façon originale. Que ce soit la musique, la cuisine, le sport, la mode, le théâtre, la lecture, l'histoire, quel que soit votre talent, allez-y les filles, soyez originales, soyez folles et montrez-nous ce qui vous passionne.
Alors, je précise, il s'agit de défi talent et non pas de défi talon comme il y a encore quelques années. Pour le défi talent, c'est quoi la tendance, Sylvie? Mode, cuisine, sport, musique, théâtre, lecture, histoire, d'autres qui ne sont pas dans cette liste?
On a beaucoup de chansons, beaucoup de chanteuses. Alors, est-ce que c'est l'effet Vaïmalama Chavez de l'an dernier? Mais je blague souvent en disant qu'on pourra peut-être envoyer des vidéos à The Voice pour leur futur casting. Ouais. Bon, le but de savoir-faire de cette vidéo un peu talent, c'était déjà parce que faut un petit peu de légèreté. Voilà, on est dans une période de confinement qui est très lourde, avec des sujets très très lourds, très importants. Miss France, ça reste du divertissement, ça reste de la légèreté. Donc, on voulait dire à nos candidates, allez-y, amusez-vous, envoyez-nous ce que vous avez envie de nous envoyer. Ouais. Et c'est vrai qu'on a, on a pas mal de sportives aussi, beaucoup. J'ai appris beaucoup de recettes de cuisine également.
Vous avez vu des trucs complètement barrés?
Oui, complètement.
C'est vrai? Vous pouvez en dire un juste là maintenant, avant qu'on marque une pause?
Déjà, on a des gens qui nous envoient des vidéos qui ne sont pas du tout dans les critères de Miss France. On a eu, j'ai eu un défilé, par exemple, d'un homme. Voilà, donc ça,
c'est
le but.
C'est pas un barbu qui s'occupe des médias?
Non. Et puis, de toute façon, je le balancerai pas. Hein.
On continue, vous restez avec nous, Sylvie Tellier, sur ce sourire, parce qu'on a encore plein de questions à vous poser, et également ce que vous faites en ce moment sur les réseaux sociaux. Sylvie Tellier, directrice générale de l'organisation Miss France, revient juste après ça.
Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Sylvie Tellier, directrice générale de l'organisation Miss France, on parle de l'organisation justement du concours Miss France qui va se tenir en décembre pour élire la Miss 2021. Ça se passe en vidéo, on l'a raconté, il y a une vidéo de présentation, une dans laquelle elles doivent défiler en tenue de ville, et un défi talent dont vous disiez, il y a quand même parfois, c'est un petit peu barré, il y a eu un barbu qui a défilé, quoi d'autre d'un peu extrême ou d'à côté?
Oui, mais Philippe, il n'était pas barbu.
Ah non, c'était le nôtre qui est barbu.
Alors en fait, bizarrement, enfin non, c'est pas bizarre, parce que les gens prennent l'élection de Miss France super au sérieux, donc ouais. J'ai des vidéos, les jeunes femmes sont très appliquées, très scolaires, il n'y a pas tant de choses complètement folle. Non, les choses très sympas qu'on a eues, j'ai eu des vidéos où, par exemple, il y a des femmes qui ont passé l'âge de Miss France, des critères et tout, mais qui nous envoient juste des vidéos pour nous dire merci, c'est sympa, merci pour ce que vous faites, ça me fait rêver, ça me fait du bien pendant cette période de confinement. Donc voilà, il y a toutes les vidéos sont pas exploitables, mais en tout cas, ça a fait réagir et c'est plutôt chouette.
Et en même temps, pour vous, c'est très bien parce que c'est un très bon moyen de vérifier si les candidates sont à l'aise avec les réseaux sociaux.
Et puis elles sont super à l'aise en fait. Je me rends compte qu'elles sont beaucoup plus à l'aise pour réaliser une vidéo que lorsqu'on les a en entretien individuel, en face à face.
C'est un petit peu normal. Qu'est-ce qui se passe ensuite pour les candidates une fois leur vidéo envoyée? Comment ça se déroule?
Ah ben une fois que les candidatures, qu'on reçoit les vidéos, alors on les visionne, on leur a promis de pas les diffuser hein, déjà, ce qui leur permet d'être un peu plus libres. Ensuite, eh bien, nous envoyons ces vidéos, si les vidéos correspondent en fait aux critères, nous envoyons ces vidéos aux délégués régionaux qui prennent contact avec elles, qui leur envoient un règlement manuscrit en fait, puisqu'elles doivent remplir une fiche d'inscription, et ensuite un rendez-vous leur est donné post-confinement pour un entretien de visu pour ensuite leur permettre d'assister à la présélection finale qui aura lieu avant la régionale.
Alors, je sais que c'est très difficile de s'avancer, mais traditionnellement, les Miss régionales partent toutes ensemble pour un grand voyage avant la finale en décembre. Est-ce que ce voyage est maintenu ?
Alors, voyage de préparation, il y aura, bien sûr. La question, c'est où ? Déjà, est-ce qu'on aura le droit de voyager en novembre ? Je ne sais pas. Aujourd'hui, on avait déjà commencé à travailler sur l'organisation de ce voyage, parce que moi, je travaille vraiment un an en amont. Ce voyage devait s'organiser en Guadeloupe, ville d'origine, enfin terre d'origine de Clémence Bottineau. Est-ce qu'on pourra encore voyager en Guadeloupe au mois de novembre ? Je ne sais pas. Est-ce que la Guadeloupe souhaitera toujours nous accueillir ? Je n'en sais rien. S'il faut que ce voyage de préparation ait lieu en France, il se fera en France. Moi, j'ai besoin de ce temps nécessaire pour faire connaissance avec nos jeunes femmes et puis les préparer à cette finale de décembre.
En France métropolitaine. En cette période de confinement, vous avez trouvé de quoi vous occuper. Chaque jour à 17h30, vous êtes en live sur Instagram avec d'anciennes Miss France. Comment vous avez eu l'idée de ce live ? De ces lives d'ailleurs, s'il y en a un par jour ?
Tout simplement parce que ces lives, ça me permettait de garder le contact avec elles, de prendre de leurs nouvelles pendant
l'idée,
le confinement.
Mais l'idée, vous l'avez piqué où ?
L'idée, je l'ai piqué où ? En fait, j'ai regardé The Show Must Go On d'Arthur. Il a commencé, je crois, le deuxième ou le troisième jour du confinement. J'ai trouvé ça génial. Et je me suis dit, j'aimerais faire ça avec nos Miss. Après, moi, c'était pas possible de faire une émission comme ça à 4-5 parce que mes Miss, elles sont un peu éclatées dans toute la France. Certaines n'ont pas de connexion. Et je préférais le format du live à deux parce que je trouvais assez intéressant de revenir sur leur année de Miss France, qu'elles me parlent de leur confinement, bien évidemment, mais qu'elles nous parlent de leur année, de savoir comment c'était d'être Miss France en 98, les meilleurs souvenirs. Et puis, honnêtement, je pensais pas être confinée plus de 40 jours. Donc, voilà. C'est parti d'une envie un peu de proposer de l'évasion aux gens. Et puis, il y a eu beaucoup, beaucoup de monde. Donc, j'ai continué. Et j'avoue que je commence à manquer un peu de Miss France.
Ah là là. On va entendre un extrait. C'est Flora Coquerel, Miss France 2014.
Comme je vous disais, je suis ravie de recevoir Flora, notre belle Flora Coquerel, qui, pour celles qui la connaissent, est une jeune femme sympathique, avenante, qui aime les gens. On a l'impression que voilà, elle est toujours calme, elle est toujours de bonne humeur, c'est un petit bonbon, donc c'est cool. Avec le générique, puis on va l'accueillir. Je crois que c'est une connectée, donc je suis sûre qu'elle est par là. Hello! Comment ça va? Et toi? Mais dis-moi, je crois que je reconnais la maison de mon ancêtre.
Eh oui, je suis dans ma chambre d'ado, comme j'aime le dire, je suis chez mes parents.
Ouais, et puis un autre exemple, Camissaire, Miss France 2015. Elle a joué, elle, à l'intervieweuse et elle vous a posé des questions à vous, Sylvie Tellier.
Il y a plein de gens qui m'ont demandé ton numéro de téléphone.
Pourquoi faire?
Apparemment, ils voudraient me parler. Je jure, je rigolais toute seule. Je lisais les messages et tout. Et il me disait, demande-lui son numéro de téléphone. Donc sache que des gens aimeraient te parler. En plus, ça y est, les vacances sont finies pour tes enfants. Donc du coup, tu redeviens maîtresse d'école.
Du coup, c'est un peu le drame. Du coup, je flippe un peu parce qu'à partir de lundi, il faut que je leur retrace les doigts. Et là, j'avoue que c'est moins drôle.
Bah ouais, je compatis.
Merci.
Ça se passe comment, Sylvie Tellier, faire la classe à vos deux enfants qui sont en âge ? C'est comment la classe à la
terrible.
Maison ? C'est vrai ?
C'est terrible. Ah oui, je sais pourquoi j'ai jamais été maîtresse, en fait.
Ouais.
C'est pas facile parce que moi j'ai deux petits, j'en ai un qui est en CM1, l'autre qui est en grande section de maternelle. Donc entre eux, alors apprendre les sons, les lettres, ils travaillent pas en autonomie. Moi je continue à travailler, mon mari aussi, donc franchement c'est vraiment folklorique. Et puis j'ai un petit bébé qui a 21 mois, donc voilà.
Oh là là, dis donc, vous êtes occupée, hein. Vivement le déconfinement, Sylvie Tellier. Je vous le souhaite le plus rapide possible, comme à tout le monde. Je rappelle que vous êtes directrice générale de l'organisation Miss France et rendez-vous en décembre pour la 100e élection de Miss France. Ah, j'aime bien cette musique. Et chaque soir à 17h30 pour un live sur votre compte Instagram. Qui est l'invité ce soir ?
Ce sera Clémence Bottineau.
Merci beaucoup, Sylvie Tellier. Culture Média qui continue évidemment après le rappel des titres de 10h. On va recevoir Stéphane Bern. Laissez-vous guider, c'est ce soir sur France 2 avec lui. Direction le Paris haussmannien avec des images époustouflantes. Il y aura le journal de la culture d'Hélène Manarino. Puis on va recevoir l'acteur Harry Elmaleh. Nos Indispensables, une série culte à découvrir ou redécouvrir avec Margot Barallon. Et puis enfin musique avec un groupe qui entretient le mystère sur un possible retour. Daft Punk, Angèle Châtelier a mis un casque.
Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver. Si vous nous rejoignez seulement, nous sommes ensemble jusqu'à 11h. On va recevoir dans un instant Stéphane Bern, qu'on ne présente plus. Il y aura le journal de la culture d'Hélène Manarino, elle non plus, on ne la présente plus. Et puis le comédien Ariel Mallet. Pareil, Ariel Mallet, je ne le présente plus. Nos indispensables, une série américaine culte et de la musique avec le retour ou pas d'un groupe culte.
Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Bonjour Stéphane Bern.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
Ravi de vous entendre sur Europe 1. Vous êtes co-présentateur d'une émission événement, c'est comme ça qu'on dit, qui passe ce soir. Ça s'appelle Laissez-vous guider. Co-présentateur avec Laurent Deutsch. Expliquez le principe de Laissez-vous guider.
Le principe de Laissez-vous guider, d'abord, c'est un jeu de rôle entre Laurent et moi. On essaye de s'épater l'un l'autre en étant des guides un peu pour se promener, une promenade un peu féerique et ludique et touristique dans Paris. On apprend plein de choses, c'est un divertissement. Mais on essaye de recréer en 3D des monuments qui ont disparu grâce à la réalité augmentée. On arrive à le faire, mais ce qui est une prouesse encore plus extraordinaire, c'est qu'on entre dans ces monuments qui ont disparu et qu'on fait revivre. C'est plein d'anecdotes, c'est nourri, on s'amuse. Il y a des historiens aussi qui donnent leurs sentiments et qui viennent apporter leur éclairage. C'est une folle aventure comme ça, une traversée de Paris originale.
Alors on va situer quand même les travaux d'Haussmann. 17 ans de travaux, 20 000 immeubles détruits, 30 000 immeubles reconstruits. Tout Paris change, les rues, les boulevards, les réglementations, les façades. Il y a des images 3D, vous l'avez dit, saisissantes. Vous êtes avec Laurent Deutsch sur le toit de l'Opéra de Paris. Vous regardez le Paris au loin, mais vous regardez maintenant le Paris de 1830 pendant qu'il y a des travaux en train de se faire avec des immeubles anciens, d'autres nouveaux, d'autres détruits, d'autres immeubles en train d'être construits. C'est juste magnifique et vous avez même ouvert un immeuble virtuellement. Racontez, qu'est-ce qu'on découvre dans l'immeuble ouvert?
Ce qui est intéressant dans un immeuble haussmannien ouvert, c'est qu'on découvre comment c'était avant tout des appartements de réception. Ouais. C'est-à-dire que tout d'un coup, l'hygiène arrive, il y a l'eau, il y a le gaz, il y a le tout à l'égout, enfin on crée tout cela. Et donc, on éloigne le plus possible la cuisine, d'abord parce qu'à l'époque, les gens avaient un peu de personnel, des salles de réception. Moi étant gamin, pour vous dire la réalité, j'ai appris à faire du patin à roulettes dans l'appartement familial entre la cuisine et la salle à manger. Par contre, il ne fallait pas aller regarder les chambres qui étaient minuscules. Ouais. Donc on essaie de découper comme ça un appartement haussmannien, un immeuble, pour voir comment il a apporté le confort aux Parisiens.
Les travaux d'Haussmann ont été très violemment critiqués par certains de ses contemporains pour leur coût astronomique et ensuite par d'autres pour son impact sur le brassage des populations. Est-ce que vous défendez Haussmann ?
Oui, il faut d'une certaine manière défendre Haussmann parce qu'il a apporté le confort moderne, l'hygiène. Paris était un coupe-gorge, il n'y avait pas d'éclairage urbain, donc on se faisait rançonner à tous les coins de rue. Mais dans le même temps, le prix à payer, c'est qu'effectivement, il a exproprié beaucoup de gens. Les loyers sont devenus très chers. Il n'y avait que des gens plutôt fortunés. En même temps, l'appartement, l'immeuble haussmannien faisait que vous aviez les gens fortunés au premier, au deuxième étage, et plus vous montiez dans les derniers étages, vous aviez ce qu'on a appelé les chambres de bonne. Ouais. Il y avait un brassage de population, mais on n'écarte pas dans l'émission la face cachée, la face d'ombre, en quelque sorte, de la médaille haussmannienne.
Dans l'émission, vous réhabilitez un personnage dont l'imagerie populaire s'est souvent moquée et qui était le véritable décideur en surplomb d'Haussmann.
La tête pensante,
visionnaire, qui a tout orchestré, qui a voulu préparer Paris au défi de l'avenir, au défi de la modernité, eh bien c'était l'empereur Napoléon III qui, par un décret en 1852, va signer l'arrêt de mort du vieux Paris.
C'est un chef d'orchestre, Haussmann. Et la partition, c'est Napoléon III qui l'écrit.
Car Napoléon III, c'est très précisément ce qu'il veut. De larges trottoirs, d'immenses parcs et un système d'égouts performant. Des idées modernes, inspirées par ses séjours à l'étranger.
En voyant ces villes modernes, qui étaient Londres et New York, il se rend compte qu'il faut faire exactement comme avaient fait les empereurs romains, faire de grandes voies pour justement faciliter la vie.
Le programme de Napoléon III pour Paris tient en trois verbes. Assainir, agrandir, embellir.
On a toujours dit, et les profs de ma jeunesse ont toujours dit que Napoléon III était un personnage mineur. Victor Hugo l'appelait Napoléon le Petit. Vous n'êtes pas d'accord, Stéphane Bern ?
C'est pas que je suis pas d'accord. C'est vrai qu'on a l'image de Napoléon III par Victor Hugo, badinguet, comme il le traitait. Ouais. Napoléon le Petit par rapport à son oncle Napoléon le Grand. En réalité, Napoléon, en tout cas dans la partie de l'Empire libéral, a fait beaucoup. C'était quelqu'un qui a écrit l'extinction du paupérisme. Il a fait beaucoup pour les classes sociales. Les syndicats sont nés sous Napoléon III. la liberté de la presse sous Napoléon III. Donc, encore une fois, sa médaille, elle a un revers, mais il y a aussi une part de lumière dans ce qu'il a fait. Notamment, il a changé, il a eu l'intelligence de nommer Haussmann pour recréer un nouveau Paris.
On vous retrouve, Stéphane Bern, on a encore plein de questions et vous plein de réponses. Il y a plein d'autres émissions que vous avez sur le feu, c'est une image évidemment. Vous restez avec nous dans Culture Média, à tout de suite.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
En compagnie de Stéphane Bern, qui présente ce soir, qui co-présente en compagnie de Laurent Deutsch, Laissez-vous tenter, émission très spectaculaire consacrée au Paris d'Haussmann et les grands travaux avec des images 3D absolument saisissantes. Il y a également des témoins, par exemple, vous êtes fait raconter l'histoire de la Paeva. C'est elle qui a fait construire le dernier hôtel particulier qui existe encore sur les Champs-Élysées, quasiment un palais. Juste pour donner une idée, dans la salle de bain, il y a une baignoire de 900 kilos d'argent avec trois robinets, un pour le froid, un pour le chaud et un troisième pour le...
Champagne.
Exactement, c'est dingue. Oui. Je veux qu'on entende l'historienne qui vous a raconté l'histoire des cocottes et celle de la paella. Elle s'appelle Virginie Giraud, l'historienne, on l'écoute.
Les cocottes, c'était des sortes d'escort girls en fait, qui étaient très prisées pendant le Second Empire. Elles se faisaient parfois des fortunes colossales avec les hommes qu'elles plumaient littéralement.
Il a suffi qu'elle en plume un ou plusieurs ?
Ah non, plusieurs. Ah. Il en a fallu plusieurs. Et puis d'ailleurs, elle a une histoire très très longue puisque tout commence pour elle en 1819 dans le ghetto de Moscou. Elle vient d'une famille pauvre, mais elle racontera qu'elle est la fille du poète Pouchkine ou d'un Romanov, hein, tant qu'à faire, la famille des tsars c'est plutôt pas mal. Et en fait, elle épouse un tailleur français avec qui elle a un enfant. Elle est malheureuse, elle rêve de la grande vie, donc elle s'en va. C'est pour dire qu'elle a de l'audace. Hein.
Elle abandonne son enfant.
Tout à fait, oui. Oui, mais elle avait mieux à faire, il faut croire. Et donc, elle passe par Constantinople. C'est là qu'elle apprend un petit peu l'art érotique, hein, puisque c'était la grande capitale des harems, de l'orientalisme. Et puis, elle arrive à Paris, où elle est tout à fait sans le sou. Et donc, elle se prostitue. Elle a d'abord plumé le marquis de la Paeva, hein, dont elle a pris le nom et ce qui lui a permis de rentrer dans le grand monde cette fois, puisqu'elle est devenue marquise. Et une fois qu'elle l'a plumé, elle l'a acheté. Lui, s'est suicidé, le pauvre.
C'est horrible ce que vous racontez là.
Il avait le cœur brisé. Mais bon, elle s'est vite retournée en revanche.
Ah oui,
c'était une vieille habitude, ça.
Grande élégance de l'ami Laurent Deutsch. Dans une interview, Stéphane Bern, vous avez dit que l'époque à laquelle vous auriez aimé vivre, ce serait le 19e siècle. Pour quelle raison ?
J'aime bien ce 19e, d'abord parce que c'est la naissance d'une sorte de modernité, du confort un peu bourgeois, c'est vrai, mais aussi parce que en Europe, c'est l'émergence des nationalités. Je dis pas des nationalistes, mais c'est là où la Grèce, par exemple, en 1821, secoue le joug ottoman et devient la Grèce contemporaine. On fêtera d'ailleurs en 2021 le bicentenaire de la Grèce. C'est un peu le moment aussi où l'Italie se fait par elle-même, où l'Allemagne se constitue de toutes ces petites principautés. Donc je trouve que il y a un élan, disons, national assez intéressant en Europe. Et puis c'est la naissance de ce confort, un peu ce qu'on appelle le cosy, bourgeois. Maintenant, je suis pas très pour les horizontales, vous savez, toutes ces dames qui réussissaient à allonger, parce qu'évidemment je ne peux pas. La prostitution.
Vous ne cautionnez pas la séquence précédente. Comment vous faites pour toutes vos émissions? Les tournages de Secrets d'Histoire ont été mis sur pause. Vous avez combien d'épisodes inédits en stock?
Écoutez, je crois qu'il y en a 2-3 qui sont en stock, qui sont prêts. Ouais. Moi, j'ai tourné mes plateaux. Parfois, il manque un sujet ou un autre, mais ça pourra être fait dans des conditions de respect des règles sanitaires. Maintenant, il y a 6 à 8 émissions qui sont en stand-by. Elles sont vraiment en pause, comme vous le dites, parce que je n'ai pas pu faire les plateaux. Je devais tourner au Palais Royal de Bruxelles et à Bruges. C'est arrêté pour le moment. On est en train de changer de fusil d'épaule, si je puis dire, parce que je devais tourner des émissions, notamment une en Italie au Palais Royal de Turin. Ouais. On va vite prendre des sujets plus franco-français.
Mais ouais. Attendez, j'ai plein de questions encore. Le village préféré des Français 2020, vous avez tourné des séquences dans certains villages, c'est annulé, c'est reporté. Les villages où vous avez tourné sont sûrs d'avoir gagné?
On a moi je ne l'ai pas, mais l'huissier a le nom du village gagnant en 2020. Je retournerai donc dans quelles conditions. Il y aura moins la foule, évidemment, à Saint-Val-la-Hougue, qui est le village qui a gagné l'année dernière, pour présenter l'émission qui va passer cet été, enfin au début de l'été, l'émission Le Village Préféré des Français 2020.
Un mot de l'Eurovision, Vous allez présenter l'émission qui va être une émission un peu spéciale.
Oui, c'est une émission spéciale, c'est un concert hommage à l'Eurovision pour garder, j'allais dire, la continuité. Ouais. C'est Shine a Line, allume une lumière. Ça sera le 16 mai pendant 2 heures. C'est l'UER qui nous donne le faisceau. Nous, on crée une émission. Philippe Tullier fait un documentaire après en deuxième partie de soirée. Et moi, je serai accompagné des commentateurs du passé, un certain nombre de commentateurs, et puis des artistes français qui ont participé à l'Eurovision. Voilà, une émission spéciale samedi 16 mai en lieu et place du concours qui devait se dérouler à Rotterdam.
Question pratique, comment se passe votre confinement? Où est-ce que vous êtes et comment vous occupez vos journées, Stéphane Bern?
Écoutez, mon confinement se passe, je dois dire, dans des conditions qui ne me permettent pas de me plaindre, parce que je suis venu voter ici dans le Perche, à 130 km de Paris. J'y suis resté confiné. Je fais mon émission de radio tous les matins grâce à une ligne qui m'a été installée. Et puis j'écris tout le reste de la journée. Donc je risque d'envahir les librairies à partir du mois de septembre, parce que comme j'ai eu le temps d'écrire, eh bien voilà. Donc je travaille, j'essaie d'entretenir mon corps aussi, de faire un peu de sport. Ça se passe bien parce qu'à la campagne, vous savez, on est moins tenté aussi. Ouais. Je suis pas tenté de sortir et puis j'ai mes animaux avec moi et donc ils peuvent faire un tour dans le jardin. Et
si je suis bien informé, je sais qu'à Paris vous n'avez pas la télé, ce qui étonne toujours un peu, mais là vous avez une télé. Vous regardez quoi à la télé, Stéphane Bern?
Écoutez, je regarde Le Point tous les soirs, Le Point de Monsieur Salomon sur le
directeur
COVID-19.
De la santé.
Oui, je regarde Le Point quotidien, je regarde le Premier ministre ou je regarde le ministre de la Santé.
Est-ce que vous avez confiance en ce que disent les autorités de la santé? Je veux dire, le sens de ma question, on apprend que les masques vont bientôt devenir obligatoires. Il y a 2 mois, les mêmes personnes nous disaient qu'ils étaient inutiles, voire dangereux, et même chose pour les tests.
Oui, enfin, comme tout le monde, on navigue à vue. Ouais. Donc, quand on ne sait pas, on dit que c'est pas nécessaire. Voilà, j'essaie d'avoir un peu d'indulgence parce que tout le monde sait mieux que tout le monde. Moi, je suis pas immunologue, je suis pas virologue, je n'y connais rien. Je suis un peu inquiet, comme tous les Français. Je suis assez d'accord avec vous. C'est vrai que ceux-là même qui nous disaient qu'on n'avait pas besoin de masque, qu'on savait même pas s'en servir, aujourd'hui nous disent que c'est obligatoire. Ouais. Je sais pas où ça nous conduit. Moi, en tout cas, j'ai décidé de changer de vie. Je peux vous dire que j'ai plus envie de courir après n'importe quoi. J'ai trop perdu de gens.
Ah bon ?
J'ai vu trop de gens malades autour de moi, je vais plus courir après n'importe quoi.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire, j'ai plutôt envie de m'intéresser à l'humain. J'ai participé comme j'ai pu aux actions caritatives et sociales, mais j'ai envie de réorienter ma vie vers des choses qui ont plus de sens.
On est une émission média, Stéphane Bern, vous allez laisser tomber des émissions de télé ou des émissions de radio ?
Non, je sais pas, je vais peut-être en faire moins, je vais peut-être faire mieux en tout cas, mais j'ai plus envie de courir après, vous savez, dès qu'il y avait un prime à faire, j'ai plus envie de tout ça. Je vais continuer à faire mes émissions d'histoire, de patrimoine, peut-être, mais essayer de donner plus de profondeur, c'est pas en faire moins, c'est en faire mieux. Ouais. Aller plus dans le fond, plus de profondeur, être plus proche des gens encore et de leurs préoccupations. Je crois que en anglais on appelle ça le small talk. Vous savez le blabla, les
petit
potins,
sans conséquence.
Le washi washa. Voilà. J'ai envie d'aller plus au fond des choses et dans les relations humaines aussi. J'ai vu trop de gens. Je vous le dis sincèrement, j'ai vu trop de gens tomber malades. Certains de mes amis sont morts et j'ai vraiment le cœur gros là.
Merci beaucoup Stéphane Bern. Je rappelle, Laissez-vous guider, c'est consacré au Paris d'Haussmann et c'est ce soir sur France 2. Merci d'avoir été avec nous chez Les Bleus, vous qu'on entend tous les matins chez Les Rouges.
Merci beaucoup Philippe Vandel et portez-vous bien et surtout prenez soin de vous.
Bien sûr.